Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanui.
Et bienvenue dans cette 50e émission,
édition 2023.
La dernière fois, nous avons vu que le début des années 1860 était symbole d'anarchie. Au lieu de faire respecter la loi, les administrateurs qui se suivent encouragent les enana à boire et à retourner aux traditions anciennes, provoquant ainsi des meurtres innombrables et violents. En réaction à cette brutalité, les autorités de Tahiti et de l'Église vont édicter des lois qui seront tout aussi brutales et destructrices. En 1862, en janvier, bacchanales et orgies sans fin se déroulent à Taiohae et sur l'île de Nukuhiva. Les tueries reprennent de plus belle. 7 membres de la tribu des Poua sont tués et mangés. Des vieillards sont écorchés pour leur barbe blanche. 3 enanas sont consommés en une journée à Akapa. La femme Hakaiki de Vaii et son mari mangent un homme et de sa peau font un étui à couteau de brousse pour Ko'o. 4 enanas de Hatiheu et 4 de Ho'umi sont massacrés. Temoana repart en guerre contre les Taipi. C'est à la même époque que le père Orens Freshu installe la mission à Atuona. Au cours de l'année, à Huapo et Tahuata, des esclavagistes péruviens du navire Empresa s'emparent d'une quinzaine d'enanas. À Huapo, le noir d'Amérique du Sud, Rotolo, perd la vie dans les combats. Le capitaine Aiguire fera de même à Rapa Nui cette année-là. C'est probablement à cette époque-là que ces esclavagistes ont capturé des enata de Puamau pour les conduire en esclavage.
Pour se venger, le chef de la tribu décida d'attaquer le prochain navire qui accosterait dans leur baie. Ce fut un navire marchand américain dont ils capturèrent un passager du nom de Whalen afin de s'en régaler. Alors en poste dans la vallée, le pasteur hawaïen James Kekela est intervenu auprès du chef pour qu'il libère Whalen et qu'il l'échange contre sa baleinière,
sa redingote, c'est-à-dire son long manteau, et un fusil. Dès que ce geste fut connu aux USA, le Congrès des États-Unis lui vota une belle récompense en dollars et le président Lincoln lui offrit une longue vue et une montre en or. Que 36 ans plus tard, en 1898, Kekela sera très fier de montrer à l'ethnologue allemand Karl von den Steinen lors de son séjour à Hivaoa. De passage à Nukuhiva cette année-là, l'anglais Thomas Lawson, qui réside à Uahuka, déplore qu'il n'y ait plus sur place qu'un gouverneur et 3 agents de police. On ne s'étonnera pas du désordre qui règne dans l'île. Dans son journal, Lawson écrit qu'il est témoin d'un repas cannibale à Hatiheu. Il précise aussi que l'alcool de coco apparaît à Vaipa'e'e pour la première fois cette année-là, donc en 1862. Après le divorce de 2 de ses enfants royaux, la séparation du prince Charles avec Diana et l'incendie d'une partie de son château de Windsor en 1992, la reine Elisabeth II du Royaume-Uni avait caractérisé cette année-là de « annus horribilis », année horrible. 1863 va être l'année horrible du peuple enana, et particulièrement à Nukuhiva, où siègent les autorités civiles, militaires et religieuses. Outre ce qui va suivre, cette année-là est incluse dans une longue période de sécheresse qui dure 7 ans. Première épreuve. En février, afin de mettre un terme au désordre qui règne dans l'archipel, Monseigneur d'Ordillon se rend à Tahiti, où en collaboration avec le commissaire impérial Gauthier de la Richerie, il fait établir plusieurs arrêtés et un règlement concernant l'administration des marquises. Le 19 mars, l'article 1er de l'arrêté numéro 18, réglant le service spécial, stipule « Le service spécial de l'archipel des marquises sera dirigé par 2 fonctionnaires nommés par nous et habitant la baie de Taiohae, île de Nukuhiva. Ces 2 fonctionnaires, le premier sous le titre de résident, le second sous le titre de directeur des affaires indigènes, relèveront de l'autorité des chefs de la colonie. Le 20 mars, Monseigneur d'Ordillon est nommé directeur des affaires indigènes et est chargé de faire appliquer ce qu'on appelle, le règlement pour la conduite des indigènes de l'île Nuka Hiva, qui interdit, entre autres, la polygamie et la polyandrie, c'est-à-dire pour les hommes d'avoir plusieurs épouses et pour les femmes d'avoir plusieurs maris. Ce règlement interdit aussi les couples illégitimes, on ne peut vivre ensemble que si on est marié. Il interdit aux femmes et aux filles l'accès des navires, il interdit de faire dessécher les morts, il interdit d'organiser les festins mortuaires, de battre le tambour, de danser et de chanter à la mode païenne. Il interdit de soindre, c'est-à-dire de couvrir son corps de eka ou de pani,
le monoï marquisien,
d'en oindre les vêtements. Il interdit de porter des colliers de fleurs. Il interdit de tatouer. Il interdit de se faire tatouer, d'aller ou de se baigner nu, de travailler le dimanche et les jours fériés du nouveau calendrier. Tous les lieux tapous sont rendus profanes. Le nouveau règlement traite aussi de la propriété des terres, des fruits et des légumes, des arbres fruitiers, des embarcations, du vol, de la fabrication d'alcool, de la détention d'armes, des atteintes aux biens et aux personnes, des déplacements sur terre et en mer, de sécurité publique, de routes et de chemins. Les peines encourues sont les travaux d'intérêt public et de l'emprisonnement de 2 à 40 jours. Toutes les taxes étant maintenant perçues par l'autorité coloniale, Temuana est fait grand chef de l'île et se voit attribuer une allocation de 3000 francs par an en dédommagement. L'île est divisée en districts, dirigés par un chef appointé, c'est-à-dire payé, le plus souvent un chef indigène, secondé d'un juge, d'un agent-chef et de 2 agents de police. La goélette lamarquisienne est mise à la disposition du résident et de l'évêque. Un seul point positif, le contingent des frères instituteurs est fixé à 12 et les écoles vont être ouvertes. Le 15 avril, Mgr Dordillon revient de Tahiti. Il débarque du navire La Dorade avec 3 nouveaux missionnaires qui seront chargés de l'enseignement dirigé par le frère Stanislas Cochet. À partir de là, la mission intensifie son œuvre. Par les arrêtés du 19 mars, 2 écoles sont créées à Taiohae. Pour les garçons, une école des frères de Plo Hermel où sont nommés 4 religieux instituteurs qui s'installent à Patoa, dans l'ancienne chapelle transformée en école. Pour les filles, une école des sœurs avec 4 religieuses institutrices des sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui sont installées à
Maui,
site de l'actuelle mission. Au nombre de 12 au total, les religieux touchent un traitement mensuel de 1600 francs de l'époque par mois. En raison de la guerre de sécession qui prive les USA de sa production cotonnière, les 2 missions de Nuku Hiva et de Hiva'oa, encouragées par l'administration centrale, se lancent dans la culture du coton. Le 1er août, le lieutenant de vaisseau de Kermel est remplacé par le résident Rousseau. C'est un commerçant de Taiohae et aussi un ancien capitaine au long cours. Il est pendant 2 ans et demi en parfait accord avec l'action menée par la mission. Deuxième épreuve subie par les Enana en 1863. Le 23 août, l'aviso à vapeur français, Diamant, fait escale à Taiohae. Il est en provenance de Caliao au Pérou, d'où suite à l'intervention de l'évêque de Tahiti, Tepano Jōsen, les autorités françaises lui ont ordonné de ramener les Polynésiens capturés par les Péruviens à des fins d'esclavage. Depuis son départ, 15 Polynésiens sont morts de la variole qui menace l'ensemble des passagers et de l'équipage. C'est au Fort Collet, transformé en hôpital, qu'on soigne la 12aine de malades débarqués qui sont originaires de Tubuai, de Mangaia aux îles Cook et de Rapa Nui. Le premier cas de variole se déclare au bout de 8 jours dans la vallée Hoata. Les symptômes de la maladie sont affreux. Les gens sont couverts de pustules de la tête aux pieds. Ils saignent de partout et dégagent une odeur pestilentielle. Afin d'éviter de souffrir, nous dit le père Cholet, nombreux sont ceux qui se pendent ou s'empoisonnent en famille. Ayant au préalable creusé une fosse où ils mettent fin à leurs jours, les chiens se régalent de tous ces corps. En quelques semaines, malgré les soins prodigués par les missionnaires et l'acheminement d'un vaccin sur place, on déplore 958 morts à Nuku Hiva et près de 600 à Wapau, comptabilisés en mars 1864 à la fin de l'épidémie. On ne peut s'empêcher de comparer avec Rapa Nui, où en 1861, après avoir enivré la population, les membres de l'expédition du capitaine péruvien Aguirre, dont on a déjà parlé, ont embarqué de force ou exterminé les prêtres, le chef Arikinui Kaimakoi, son fils Maurata et leur famille, tous membres du clan Miru, descendants de Hotumatua, le premier de leurs chefs probablement originaire des Marquises, privant le peuple Rapa Nui des traditions orales emportées avec eux, anéantissant ainsi en 3 jours, à tout jamais, la mémoire de tout un peuple. Or, cette même année, 1863, tout comme à Nukuhiva, un autre navire rapporte à Rapa Nui les survivants du massacre qui, eux aussi, étaient contaminés par cette variole qui faillit exterminer la population restante, dont il ne subsistait plus que 111 habitants à la fin de l'épidémie. À Taiohae, l'épidémie a décimé la population et les enfants qui fréquentaient l'école des frères. Il n'en reste plus que 9 en décembre, et comme ils sont tous pauvres, c'est la mission qui les nourrit et les habille. L'épidémie ne prendra vraiment fin qu'en mars 1864, avec l'arrivée d'un lot de vaccins apportés par le navire La Touche Tréville, sur lequel arrivent aussi le frère Artemas Pfeiffer, chargé de la vaccination, et 4 sœurs de Saint-Joseph de Cluny, dont sœur Anne-Marie Vigroux, qui s'installe à Maui. Comme Rataru vient de le chanter, le peuple des Marquises à cette époque-là aurait pu, non pas chanter, mais pleurer avec lui « Mama e anao ». Vraiment, je souffre. Car voici la troisième épreuve. Le 12 septembre, après 9 mois de souffrance, meurt le chef Temuana, emporté par une pleurésie. Il est inhumé sur la pointe Teahaaki de la terre Vihihenu, qui surplombe le paipai de son ancienne habitation au bord de mer, et le paipai Pikivehine. Pour concilier la tradition et la religion, il n'est pas vraiment inhumé, mais déposé dans une petite grotte, par la suite scellée et recouverte d'un caveau. Dans un courrier adressé au frère Victorien Réveil à Valparaiso, au Chili, le père Jean Lecornu écrit comment s'est déroulée la cérémonie. Je cite. Tous les indigènes se sont fait un devoir d'assister aux funérailles de leur chef. On a tiré le canon chaque heure du moment de sa mort jusqu'à l'inhumation. Après le clergé, le corps était porté par des chefs. À la suite de la famille marchait le résident français avec ses trois gendarmes et les colons de la baie. Au moment où l'on descendit le corps dans la fosse, on n'entendit aucun cri. On voyait simplement les larmes couler des yeux des assistants. En 1863, il n'y avait pas d'état civil aux Marquises. C'était l'Église qui effectuait le relevé des baptêmes, mariages et sépultures. L'acte de sépulture de Temuana, rédigé par Mgr d'Ordillon, est conservé aux archives de l'évêché de Tayohae. Et je remercie ici le père Paul le Jeune, archiviste, pour m'y avoir donné accès. Ce document si précieux renferme quelques détails émouvants. D'abord sur le nom du défunt, nommé en marquisien dans le texte, Temuana, Yurio, Karoro, Matamua, Hakaikinui no Nukuhiva. Et en français, Temuana, Jules Charles Ier, roi de l'île Nukuhiva. Ensuite, sur la date même du décès de Temuana, Mgr d'Ordillon a commis une petite erreur car il stipule que le chef est décédé le samedi 11e du mois de septembre. Or, le 11 septembre était un vendredi. Temuana est donc décédé soit le vendredi 11, soit le samedi 12. Enfin, le document renferme le nom des chefs présents à l'inhumation qui s'est tenue le lundi 14 septembre 1863. C'était Tuhakakua Makaka Hopevehine, conseiller et dernier oncle maternel vivant de Temuana, dont nous avons déjà beaucoup parlé, Eriko Teha Tau'a Mataheva Tahatito, l'ancienne grande prêtresse de Taioa de Hakaui, dont nous avons aussi beaucoup parlé, puis Hakaua, Harakiko, Puhikino, Teiki Ooa, et enfin Moanatini. Et justement, l'Église attend beaucoup du soutien du nouveau chef Stanislas Moanatini, qui a été élevé et éduqué dans le catholicisme. On pense aussi que l'épidémie de variole est considérée comme une punition divine et que les Enana doivent changer d'attitude. Mais il n'en est rien. Et le fameux règlement dont on a parlé va s'appliquer avec toute sa vigueur. En cette fin d'année, selon Greg Denning, la population des îles Marquises se compte comme suit. Hiva'oa, 4500 habitants. Tahuata, 250. Fatuiva, 1300. Nukuhiva, 2000. Uapou, 1000. Et Uahuka, 300. Soit un total de 9350.
Très proche du résultat des recensements de 2012, 2017 et 2022.
Le révérend père Cholet signale de nombreux actes de violence dans l'île. Après le meurtre d'un des leurs par les Pouas, les Atitoka de Akapa se vengent en tuant trois Pouas, puis ils les rôtissent et les mangent. Ils pillent la chapelle et profanent les ornements, les livres et les saintes huiles. Ils recommencent quelques semaines plus tard, dépeçant vivants et mangeant cru leurs victimes. On tue aussi des gens pour manger leurs yeux crus. Un vieillard nommé Haotehenua est assassiné par un certain Vai Vai uniquement pour sa barbe blanche. Une cuisse humaine est même envoyée par provocation aux résidents de Kermel. Ce qui est remarquable dans le récit du père Cholet, c'est qu'il donne le nom personnel de chacune de ses victimes, qui ne lui étaient donc pas des inconnus. Le pasteur hawaïen Zakaria Hapuku, en poste à Hiva'oa, fera le même genre de récit à ses supérieurs en 1866, en donnant lui aussi les noms des victimes. Enfin arrive la dernière épreuve, la quatrième. En plus de toutes ces catastrophes, la décennie est marquée par une sécheresse de 7 années. Greg Denning écrit que le peuple est aveuglé par tant de souffrances et ne comprend pas qu'un dieu d'amour puisse les châtier d'une manière aussi brutale. Chers amis, après une année 1863 de souffrance, le calme reviendra sur l'archipel avec la fin de l'épidémie en avril de l'année suivante qui sera marquée par le vrai début de l'enseignement aux Marquises. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Rataru pour sa chanson Mama e Anao, vraiment je souffre, qui exprime toute la douleur du peuple marquisien. Et même si aux Marquises gémir n'est pas de mise, il y a des moments où l'on ne peut plus se taire. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf. ou sur mon Vini, 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.